excellente soirée.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 4 août 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous, à la une de nos informations. Au Ghana, l'opposition manifeste dans les rues d'Accra pour dénoncer la gouvernance du président Nana Akufo-Addo. Au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar a viré de la présidence de son parti. La branche militaire accuse l'ancien chef rebelle de ne plus représenter ses intérêts. L'Éthiopie a suspendu pour 3 mois Médecins sans frontières et le Conseil norvégien. Les deux ONG sont accusées de désinformation au Tigré. À suivre aussi dans ce journal le point sur le Covid-19 dans le monde. L'OMS a encore plaidé pour des vaccins pour les pays pauvres. Ne manquez pas dans cette session d'information les sports avec notre spécial Jeux Olympiques. Mais tout d'abord, le journal. Manifestation anti-gouvernementale au Ghana ce mercredi. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues à Accra, la capitale, pour dénoncer les difficultés économiques auxquelles ils font face depuis le début de la pandémie. Abdourahman Dia.
Habillés en rouge et noir, les manifestants ont défilé dans le calme dans le centre de la capitale en entonnant des chants patriotiques. Ils ont brandi des pancartes sur lesquelles il était inscrit « La corruption engendre la pauvreté » ou encore « Réparer notre système éducatif maintenant ». Il s'agit de la seconde manifestation d'envergure organisée dans le pays depuis que la Cour suprême a rejeté en mars le recours du candidat du NDC, John Mahama, qui contestait les résultats de l'élection présidentielle remportée en décembre par le président sortant Nana Akufo-Addo. Depuis plusieurs mois, des jeunes s'organisent autour du hashtag « Fix the country », réparer le pays sur Twitter. Face au poids croissant de la dette publique et aux retombées de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a imposé de nouvelles taxes qui, conjuguées à la hausse des prix du carburant, ont provoqué le mécontentement de nombreux Ghanéens. La croissance en 2020 s'est établie autour de 0,9% selon le FMI, soit le taux le plus bas depuis plus de 30 ans.
Centrafrique, l'ONU accuse les rebelles, les forces gouvernementales et leurs alliés russes de violation des droits humains. Entre juillet 2020 et juin 2021, la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, a enregistré 526 cas de violation et d'abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire à travers le pays, qui ont fait au moins 1221 victimes, dont 144 civils. En République démocratique du Congo, les syndicats des médecins congolais ont invité aujourd'hui tous leurs affiliés à reprendre le travail dans les hôpitaux paralysés pendant 3 semaines par une grève générale. La partie gouvernementale a confirmé que le chef de l'État va signer incessamment une ordonnance présidentielle pour reconnaître des promotions en grade de plusieurs médecins. La RDC fait face à une 3e vague de la pandémie de COVID-19 avec plus de 50 000 cas confirmés et 1045 décès d'après le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Le vice-président du Soudan, Riek Machar, a été destitué de la présidence de son parti à l'issue d'un rassemblement de 3 jours du SPLM-IO dans l'extrême nord du pays. La branche militaire du parti accuse l'Est rebelle de ne plus représenter ses intérêts. Nathalie Barge.
Selon une déclaration signée par la direction militaire du parti, Riek Machar a échoué à faire preuve de leadership et a affaibli la position du parti dans le gouvernement de coalition formé début 2020. L'aile militaire a déclaré qu'il pratiquait une politique de division pour régner et qu'il a favorisé le népotisme au détriment de l'unité et du progrès. En conséquence, la réunion a vu qu'il n'y avait pas d'autre choix que de prendre la décision et a finalement été incité à déclarer la destitution du docteur Riek Machar Teny Diourgon de la présidence du SPLM-AIO, indique le communiqué. Le chef d'état-major de la branche militaire du parti, le lieutenant général Simon Gatouet-Djoul, a été déclaré chef par intérim du parti. Il est encore difficile d'établir les conséquences de ce changement pour M. Machar, figure centrale de la politique et qui a déjà connu des années de guerre civile, des tentatives d'assassinat et des périodes d'exil.
La directrice de l'Agence américaine d'aide internationale, Samantha Power, a appelé les forces rebelles tigréennes à se retirer immédiatement des régions Amhara et Afar bordant le Tigré. L'ONU a prévenu mercredi que les rations provenant du dernier convoi humanitaire à avoir atteint Mekele le 12 juillet ne permettraient de tenir que quelques jours. L'Éthiopie a justifié ce mercredi la suspension pour 3 mois des activités au Tigré de Médecins sans frontières et du Conseil norvégien pour les réfugiés en les accusant de désinformation. Claire Morin-Gibou.
Médecins sans frontières et le Conseil norvégien pour les réfugiés répandent la désinformation dans les médias sociaux et sur d'autres plateformes, en dehors du mandat et des objectifs pour lesquels ces organisations ont été autorisées à opérer, affirment les autorités éthiopiennes dans un communiqué. Hier, les deux organisations ont demandé des explications à cette suspension, mais le communiqué ne présente aucun exemple de cette désinformation. Addis Abeba a également accusé MSF et le NRC d'employer des étrangers qui n'ont pas de permis de travail approprié et assure que MSF a importé illégalement du matériel de transmission satellite. La fondation Al Maktoum, basée à Dubaï, a également été suspendue pour n'avoir pas suivi les régulations anti-Covid et pour mauvaise gestion de son budget. Il n'a pas été établi si l'ONG Al Maktoum, centrée sur l'éducation, opérait dans la région du Tigré.
En Zambie, la tension monte à une semaine d'élections générales disputées. Des explosions de violence ont entraîné un déploiement militaire sans précédent. Plusieurs événements de l'opposition ont été empêchés ou dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes sous prétexte qu'ils enfreignaient les restrictions anti-Covid. Seule la campagne de porte à porte est autorisée, mais des foules se sont rassemblées pour des distributions de masques organisées par les deux camps, contournant ainsi l'interdiction des meetings. Le scrutin risque de se jouer serré entre le président Edgar Lungu, 64 ans, et le chef de l'opposition Hakainde Hichilema, 59 ans, qui se présente pour la 6e fois. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma pourra assister à la reprise de son procès pour corruption la semaine prochaine, bien qu'il soit incarcéré pour outrage à la justice. Ses avocats avaient plaidé que les audiences virtuelles privaient leurs clients de ses droits, notamment de pouvoir consulter son équipe de défense. Ils avaient ainsi demandé un report pour que l'audience puisse se dérouler en présentiel. Le procès reprendra mardi 10 août au tribunal de Pietermaritzburg, la capitale de la province du KwaZulu-Natal. Un djihadiste algérien, Ben Mohamed Di Abdelmalek, qui avait rejoint les groupes terroristes au Sahel, a été capturé dans le sud de l'Algérie, près de la frontière avec le Mali, a annoncé aujourd'hui le ministère algérien de la Défense. Il s'agit du 6e Algérien appartenant à la mouvance djihadiste à être capturé depuis le début de l'année. La puissante centrale syndicale tunisienne, UGTT, a appelé aujourd'hui le président Kais Saied à nommer rapidement un premier ministre et à former un gouvernement de sauvetage afin d'éviter un vide politique. Tout retard dans la formation du nouveau gouvernement risque d'approfondir le vide politique dans le pays et de rendre difficile la sortie de crise actuelle, a estimé le syndicat qui dit aussi apporter son soutien au président.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le point sur la pandémie de COVID-19 dans le monde. La Chine restreint les déplacements à l'étranger. Le Maroc élargit le couvre-feu. La France active un plan blanc pour les hôpitaux dans le sud-est. Les derniers développements avec Mouhamadou Mfa.
La Chine a annoncé ce mercredi qu'elle va temporairement cesser de délivrer des passeports et d'autres documents nécessaires pour les déplacements à l'étranger, sauf raison impérieuse. Un durcissement des restrictions au moment où le pays fait face à une reprise de l'épidémie sur son sol. Au Maroc, un couvre-feu élargi est entré en vigueur mardi soir de 20h à 4h GMT. Les autorités ont également décidé de restreindre les déplacements vers et depuis Casablanca, Marrakech et Agadir, à l'exception des personnes munies de passeports vaccinal ou se déplaçant pour des raisons professionnelles ou médicales. En France, un plan blanc a été activé dans les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le sud-est pour faire face à une augmentation sensible des hospitalisations. Le plan blanc permet de rappeler des soignants en congé ou de déprogrammer des opérations. L'OMS appelle ce mercredi à un moratoire sur les doses de rappel du vaccin jusqu'à fin septembre. Elle estime qu'il faut mettre ces doses à disposition des pays qui n'ont pu immuniser qu'une partie infime de leur population au lieu de proposer une troisième dose dans les pays plus nantis.
Le pape François a évoqué aujourd'hui son grand désir de se rendre au Liban et prier pour que le pays redevienne un message de fraternité et de paix pour tout le Proche-Orient au premier anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth. Le chef de l'Église catholique a également souhaité le succès de la conférence internationale des donateurs organisée par la France. Le président américain Joe Biden a annoncé près de 100 millions de dollars d'aide humanitaire nouvelle pour le Liban en enjoignant les responsables politiques libanais à réformer l'économie et à combattre la corruption. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. Get into the game. Place maintenant au sport, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les Jeux Olympiques tirent vers leur fin et l'Afrique s'arrache des médailles dans ses épreuves favorites, Bagassi Koura.
Oui, l'Ougandaise Perufo Shimutai est championne olympique du 3000 mètres steeple. Elle a avalé la distance en 9 minutes 1 seconde 45, devançant l'Américaine Courtney Freerich. La Kenyane Hevin Kiyeng arrache la médaille de bronze. À 22 ans, Shimutai signe son premier podium international après avoir pris la cinquième place des mondiaux de Doha en 2019. Elle remporte ainsi le troisième titre olympique de l'histoire de son pays, tout sport confondu, le premier depuis lors de Stephen Kiprotich au marathon en 2012. Ses compatriotes Joshua Cheptegei et Jacob Kiplimo avaient terminé deuxième et troisième du 10 000 mètres la semaine dernière. Les favorites kenyanes Beatrice Chepkoech, record woman du monde, et l'américaine Emma Coburn, championne du monde en 2017, ont explosé et terminé respectivement aux 7e et 14e places. Autre médaille d'or de ce jour, le Kenyan Emmanuel Korir est devenu champion olympique du 800 mètres en 1 minute 45 secondes. Son compatriote Ferguson Rotich s'est contenté de la médaille d'argent. Le Polonais Patrick Dobek a pris la 3e place. Aucun des trois athlètes n'était jamais monté sur un podium olympique. C'est le 4e titre consécutif sur la distance pour le Kenya après Wilfred Bungel en 2008 et les deux du recordman du monde, David Rudisha, en 2012 et 2016.
Merci Bagassi. Dans les épreuves de qualification, les Africaines se sont également démarquées. Namit Talani.
La Kenyane espère que Kipyegon a dominé la demi-finale du 1500 mètres. L'Éthiopienne Frérénie Ghebreziber est arrivée deuxième derrière Faith. En finale samedi, ces Africaines feront notamment face à leur principale concurrente, la Néerlandaise d'origine éthiopienne, Sifan Hassan, déjà championne olympique du 5000 mètres, qui vise aussi les titres sur 1500 et 10 000 mètres. Toujours dans les épreuves de qualification, elles étaient les Africaines en vue en heptathlon, la Burkinabé Marthe Kouala et la Béninoise Odile Awananou. Désormais seule, Odile pourra poursuivre dans cette discipline. Marthe Kouala ne s'est pas présentée pour l'épreuve du 200 mètres à cause d'une blessure aux adducteurs contractée pendant l'épreuve du lancer de poids. Ces JO s'arrêtent donc ici. L'athlète burkinabé occupait la 20e place avec 2714 points après les épreuves du 100 mètres et le saut en hauteur et le lancer du poids. La béninoise Odile Awananou, elle, a fini en tête de sa série du 200 mètres avec 23 secondes 85. Elle a aussi terminé le lancer de poids en tête, 15,45 mètres.
Merci, Namit. Il est le successeur du roi Usain Bolt dans l'épreuve du 200 mètres. André De Grasse, vice-champion olympique en 2016, a enlevé la médaille d'or du 200 mètres grâce à un chrono de 19 secondes 62. Le Canadien succède ainsi au palmarès du 200 mètres à la légende jamaïcaine. De Grasse a devancé les Américains Kenneth Bednarek et Noah Lyles. De Grasse retrouve enfin l'or après le bronze du 100 et 4 fois 100 mètres en 2016, agrémenté de l'argent du 200 mètres, puis le bronze du 100 mètres dimanche à Tokyo. Favori avant ces Jeux, le champion du monde Noah Lyles, 24 ans, n'a jamais semblé en mesure de s'imposer et devra se contenter du bronze, son premier podium pour ses premiers JO. En basketball féminin, le choc des demi-finales opposera les Américaines, grandes favorites du tournoi, à la Serbie, championne d'Europe 2021. En quart de finale ce mercredi, les États-Unis ont offert une démonstration face à l'Australie, battue 79-55, invaincue en compétition officielle depuis le 21 septembre 2006. Les États-Unis partent donc favoris
face à la Serbie qui a écarté la Chine 77-70. De leur côté, les Françaises retrouvent les Japonaises en demi pour la deuxième fois du tournoi après la victoire du pays hôte sur les Bleus. Pourtant dominées par la Belgique en quart, les Japonaises sont parvenues à renverser le match dans le dernier quart-temps, 86-85. Un peu plus tard, les Bleus se sont détachés de leur bête noire espagnole, 67-64. C'est ici que se referme cette page spéciale consacrée aux Jeux Olympiques.
Page de sport signée Yakuba Oudraou. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les médecins ont suspendu la grève qu'ils mènent depuis 3 semaines. Le pays subit une 3e vague de Covid-19. Le gouvernement leur a promis quelques primes et des promotions. Eddy Sango a joint à Lubumbashi un membre du SINAMED, le syndicat national des médecins, le pédiatre Mick Tchongo.
Nous avons reçu une correspondance de nos syndicalistes qui nous donnait l'évaluation de négociations avec le gouvernement et qui nous informait que, au vu de l'évolution, il nous était demandé d'évaluer en fait les propositions et de suspendre la grève aussitôt qu'il y aurait une signature avec le gouvernement, avec la représentation du gouvernement dans le dossier. Voilà.
Le gouvernement s'est engagé à verser une prime de 200 000 francs congolais, soit 100 $ pour le médecin débutant et 400 000 francs, soit 200 $ pour les gradés. Est-ce que vous êtes satisfait de cette prime?
Satisfait, non. Je dois dire la vérité. Dans une négociation, on ne peut pas tout avoir. Donc, je pense que c'est un premier pas. En fait, nous n'arrêtons pas la grève. Donc, on va évaluer tout cela. C'est vrai que les choses vont se faire par palier. Mais en même temps, nous n'avons pas, les médecins n'ont pas demandé que de l'argent. Non, il n'était pas question que de l'argent. Il y avait, d'une part, l'alignement à cette prime de nos collègues qui sont utilisés par le gouvernement et qui ne sont pas payés depuis plusieurs années. Parmi eux, il y en a qui sont utilisés depuis plus de 10 ans sans être payés. Et donc voilà, c'est ça aussi que nous avons négocié. Mais à côté de ça, il y avait la reconnaissance en grade et beaucoup d'autres choses. Donc le gouvernement s'est engagé à répondre positivement à la plupart de nos demandes. C'est comme ça que nous n'arrêtons pas la grève. Mais par contre, nous la suspendons. Il est temps d'évaluer ce que le gouvernement nous propose et en même temps, nous avons même une responsabilité importante en ces temps de Covid, c'est de secourir la population congolaise qui ne peut pas être victime. Voilà.
Qu'est-ce qui explique que dans certaines villes ou dans certains endroits du pays, on ait accepté de reprendre le travail, de suspendre la grève maintenant, et dans certains autres, comme je vois, dans certaines villes comme à Goma et ailleurs, on continue la grève?
Notre syndicat écoute la base. Donc elle nous donne des informations, elle nous donne des recommandations, mais elle est en attente également de ce que nous allons décider et nous lui donnons un retour des propositions qu'elle nous donne.
Qu'est-ce qui fait que chaque année, vous posiez les mêmes problèmes et qui ne sont pas totalement résolus?
C'est là justement, la continuité dans la prise des décisions de l'État et du gouvernement en fait. C'est-à-dire que c'est comme là maintenant, nous n'avons pas arrêté, nous avons suspendu la grève, quitte à voir l'engagement du gouvernement. Et le gouvernement s'engage à nous accorder certains avantages et à répondre à nos droits. Et donc c'est ça que nous allons évaluer. Et si dans un avenir proche, en fonction de ce que nous allons nous accorder avec mes confrères, et notamment avec nos syndicalistes qui nous représentent, les gouvernements ne nous donneront pas, c'est ça le problème.
Docteur Mick Tchongo, pédiatre aux cliniques universitaires de Lubumbashi et membre du syndicat national des médecins de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Congo-Brazzaville, les agents des administrations publiques sont contraints de se faire vacciner. C'est le cas du ministère de la Communication et celui de l'Environnement, la police, les universités. Ces mesures sont diversement appréciées par la population qui estime que la prise du vaccin devrait être librement consentie. Les détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
À Pointe-Noire, où les mesures barrières sont très rigoureuses ces derniers temps, la population demande plutôt un large choix des vaccins à prendre et non seulement le russe et le chinois. Brice Makosso, l'un des leaders de la société civile dans la ville océane.
Les citoyens congolais et pointe-noirais se fassent vacciner. Ce qui est regrettable, c'est que nous n'avons pas toute la gamme des vaccins proposés à partir du moment où les vaccins qui sont disponibles chez nous ne sont pas reconnus dans l'espace européen.
À Brazzaville, plusieurs secteurs de l'administration publique sont à l'heure de la vaccination quasiment en contrainte, même si le mot n'est pas officiellement employé. Au ministère de la Communication et des Médias, par exemple, les agents ont 30 jours pour se faire vacciner. Des dispositions similaires ont été prises au ministère de l'Environnement. Dans les deux universités publiques, des calendriers de vaccination ont été publiés pour permettre à chaque étudiant et enseignant de se faire vacciner. Pour Yuan Ibiliki, un des leaders de la jeunesse, il faut plutôt persuader que de forcer à prendre le vaccin.
Nous sommes en train de mettre en place des stratégies pour inciter la population à se faire vacciner volontairement. Mais pour être honnête, c'est un exercice très difficile face à cette vague de désinformation. Cependant, rendre le vaccin obligatoire occasionnera une énième privation de liberté à cause de cette pandémie. C'est pourquoi nous invitons plutôt le gouvernement à chercher des approches plus pédagogiques et démocratiques.
Mais dans les rues de Brazzaville, les réactions divergent.
Vraiment contraindre les gens à se faire vacciner, ça paraît bizarre. Parce que jusqu'à aujourd'hui se pose un réel problème de fiabilité de ce vaccin. Mais non, mais c'est bizarre, mais voilà.
Ceux qui sont aux commandes, aux manettes de pays, n'arrivent pas à trouver des solutions, des esquisses de solutions pour proposer à ces populations. Et donc, on se cache derrière le coronavirus pour cacher leur mégestion, leur mauvaise gouvernance.
Et nous, en tant que pédagogues, nous ne pouvons que nous accommoder à cela. Parce que si on détruit l'école, si on contamine nos enfants, c'est le monde entier qui sera un grand cimetière.
Les médecins et les scientifiques congolais restent par ailleurs convaincus que seul le vaccin demeure efficace. Professeur Francine Toumi.
Et donc, pouvoir matraquer la population d'informations vraies sur ce que sont ces différents vaccins et sur leur efficacité, ce que l'on en attend.
Malgré ces nouvelles mesures, seulement 1,8% des 5 millions de Congolais ont pris leur vaccin. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Afrique, les passagers et chauffeurs des transports en commun sont quotidiennement victimes de tracasseries de la part des policiers et gendarmes aux frontières et à l'intérieur de certains pays. Les passagers et chauffeurs qui font le trajet Sénégal-Mali ne cessent d'exprimer leur mécontentement face aux raquettes des forces de sécurité. Le reportage de l'un de nos correspondants à Dakar, Nama Diara.
Moi, franchement, je suis un Ivoirien. Moi, je m'appelle Yakuba. Quand mon trajet est loin, quand il rentre au Mali, entre Poro et puis Bamako, il y a deux postes. Bon, au niveau du Sénégal, il n'y a qu'un poste qu'on paye. Au Sénégal, j'ai payé 3 000. Mais au Mali, à Divoli, j'ai payé 5 000.
Dans la gare de Beaumarégé, ici à Dakar, la capitale sénégalaise, passagers et chauffeurs expriment leur mécontentement face à cette tracasserie de la part des policiers et des gendarmes sur la route Sénégal-Mali. Macky Traoré est un passager malien, la soixantaine, déjà dans son bus pour le Mali.
Les agents de la police malienne prennent de l'argent avec les Sénégalais systématiquement. Dans la partie malienne, nous, on n'est pas concernés. Ça peut varier de 5 000 à 2 000 au niveau du Mali. La police sénégalaise aussi soutire de l'argent de façon systématique. Souvent c'est 5 000, souvent c'est 2 000.
Même si vous avez vos pièces.
Tout. Si tu ne payes pas, ils essayent même de t'humilier devant les gens, de crier sur toi.
Les chauffeurs maliens, une fois sur le territoire sénégalais, sont les plus victimes de cette tracasserie routière, selon Malik Maïga, l'un des chauffeurs maliens de la compagnie Tilemsi.
Ça me fatigue beaucoup, il y a beaucoup de postes. Même si tu as pris et reçu comme droit de traverse, ils vont dire qu'il faut payer. Depuis quand on quitte Kidra, si tu as croisé les routières, c'est 2 000. Si tu as croisé les policiers, c'est 2 000. Jusqu'à Dakar ici. Ça vaut 60 000 francs. Souvent même, on ne peut pas même compter les postes. Il y a des postes qui même entre eux, il n'y a pas 1 km. On n'a qu'à voir pour que nous, les chauffeurs, on puisse rester tranquille vraiment. Sinon, on fatigue trop sur la route.
Issa Diarra est sénégalais. Il est vendeur de billets. Il est aussi un habitué de la route Sénégal-Mali. Appelle les autorités des deux pays à mettre un terme à cette galère des gendarmes et des policiers.
au niveau des frontières là, on vous demande les papiers, vous donne les papiers, on vous demande même la carte, le niveau carte d'identité de la CEDEAO là, ça ne vaut rien. Les Sénégalais qui ont la carte de CEDEAO là, arrivés à la frontière, on les fatigue, mais par rapport qu'avant. La cause de l'argent là, mais ils n'ont pas, vraiment, ils n'ont qu'à régler le problème là, parce que les gens sont trop fatigués.
Les syndicats des transporteurs routiers avaient appelé à la grève pour dénoncer cette tracasserie routière entre le Sénégal et le Mali. Mais pour l'instant, les problèmes persistent. Nama Diarra, Dakar, VOA Africa.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Des millions d'Américains qui ne pouvaient pas payer leur loyer à cause de la crise sanitaire risquaient de se retrouver à la rue à la suite de l'expiration le 31 juillet du moratoire empêchant les expulsions. Face à la propagation du variant Delta, le président Joe Biden vient de faire promulguer un nouveau moratoire. Nani Talani a joint Ruben Joanem, un activiste engagé dans les questions socio-économiques et politiques basé à Minneapolis dans le Minnesota.
Expulsion locative, approximativement disons 15% des locataires ici aux États-Unis sont affectés par ce problème. À peu près 30 millions de personnes, 35 ou même 4 millions de personnes sont directement sont en nécessité d'assistance.
Face aux protestations, Joe Biden était obligé de faire prendre un moratoire. Que prévoit-il?
Ça va aller jusqu'au début d'octobre. Donc ça permet quand même un moment de répit. Ça reporte le problème à une autre date, un peu plus loin dans le futur, mais ça revient à coup sûr. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'une solution durable. Là, ça soulage un peu, mais le problème reviendra certainement.
Que deviendront ces locataires à la fin du moratoire?
Surtout dans les grandes villes et dans les régions métropolitaines, il y a une grande part de ces gens qui deviendront des sans-abri. Parce que, en réalité, le salaire d'une partie de la population ne les permet pas d'avoir accès à aucune forme de logement qui correspond à leur revenu comme salaire.
Et sans compter que ces locataires ont aussi accumulé des dettes parce qu'ils ont passé des mois sans payer leur loyer.
Voilà, et ces dettes reviendront à coup sûr. Ça va créer des difficultés à double proportion. D'un côté, il faut payer ces dettes parce que ce n'est pas effacé, c'est seulement mis à côté pour le moment. Et éviter à ce qu'on ne mette pas les gens à la porte pendant ce redoublement du delta variant de COVID. Mais ça revient après. Ça ne va pas effacer le problème à tout jamais. En plus, une autre conséquence, c'est qu'ils risquent d'avoir des dossiers négatifs quoi, par rapport à ce qu'on appelle le background check ici aux États-Unis pour louer un logement. Ils vont faire un background pour voir s'il n'y a pas de délinquants dans votre histoire de paiement. Si ça revient positif, ça va avoir des difficultés. Donc, ces gens sont en difficulté de façon démesurée pour ainsi dire, parce que ça complique la situation davantage.
Mais dans cette situation, il y a un autre groupe de personnes dont on doit parler aussi, les propriétaires, et aussi subissent des pertes.
Bon, et les propriétaires et les banques qui financent ces genres d'entreprises ne sont pas vraiment des perdants, dans la mesure où il y a des fonds et qui ont été consacrés pour soulager, pour rembourser ces pertes. Et les propriétaires et les institutions de finances savent comment s'y prendre. Ils ont assez de ressources pour partir à la recherche de ces fonds un peu généreux qui ont été mis de côté par le Congrès, par certaines dispositions légales pour subvenir à ses besoins, pour éviter à ce que ses propriétaires ne se noient pas tout à fait, parce qu'il ne faut pas que le système s'écroule. On va sauvegarder le système. Donc, les véritables perdants sont les locataires.
Ruben Joanem, un activiste dans les questions économiques et politiques, basé à Minneapolis, dans le Minnesota. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.